France Inter.
Merci Luc. Le prochain flash dans une heure à 17h sur France Inter. La rencontre avec l'inconscient est une aventure. On vous emmène cette semaine avec Clotilde Le Guil.
Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve à nouveau aujourd'hui pour explorer ensemble l'inconscient, cette étrange région de notre psychisme que Freud a découverte et qui a bouleversé notre approche de l'existence. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans l'univers psychique d'un homme dont le destin a transformé l'histoire de l'humanité. Cet homme, c'est un savant dont le nom restera à jamais inscrit dans l'histoire comme celui qui a rendu possible l'irréparable, l'irréversible, la destruction absolue. Oppenheimer, l'inventeur de la bombe atomique, a pourtant cru, depuis sa soif de savoir, travailler au bien de l'humanité, à son progrès même. Mais après coup, il a été tourmenté et angoissé par cet acte dont il est à l'origine, celui du largage de la bombe atomique le 6 août 1945 sur Hiroshima. Oui, il a été tourmenté par cet acte qui a fait de lui le père de la bombe atomique. Je vais vous parler de ce grand physicien à partir du dernier film de Christopher Nolan, qui vient d'être couronné aux Oscars et qui s'intitule tout simplement Oppenheimer. Car il est question d'un nom propre, d'un nom qui est entré dans l'histoire et qui est venu nommer la bombe atomique et ses conséquences sur l'humanité. Oppenheimer, ce n'est pas seulement un homme, ce n'est pas seulement un savant, ce n'est pas seulement un inventeur. Oppenheimer, c'est celui qui a œuvré pour que la création d'une bombe plus puissante que toutes celles qui existaient déjà se réalise enfin. Dans un contexte de pression intense durant la Seconde Guerre mondiale, sans relâche pris entre les exigences du général Groves, celles de la sécurité américaine, celles de la course pour prendre l'Allemagne nazie de vitesse, Oppenheimer a rendu possible cette nouvelle bombe fondée sur une réaction en chaîne. Cette bombe qu'on pourrait appeler la chose, avec un C majuscule. Car ce n'est pas une chose parmi d'autres, mais la chose. Celle qui pourrait rendre possible la destruction totale de toute chose. L'explosion de la bombe, c'est l'explosion hors d'elle-même de la chose et de ce qu'elle contient de puissance de déflagration. Oppenheimer est celui qui a voulu que son invention sorte du laboratoire, qu'elle sorte même hors d'elle-même et qu'elle diffuse ses effets de destruction au-delà même du prévisible. Pour cela, il a fallu la course au savoir, la poussée constante du gouvernement américain en temps de guerre, l'effondrement de la sagesse et la volonté d'un homme, le consentement de cet homme à la destruction. À quoi ai-je consenti ? Voilà une question qu'Oppenheimer s'est peut-être posée, lui aussi. Alors avançons-nous ensemble avec Oppenheimer, avec la psychanalyse, dans cette interrogation sur la pulsion de mort et la façon dont il est possible de la faire aussi reculer. Car ne rien vouloir savoir de cette pulsion de mort, c'est toujours d'une certaine façon y consentir. C'est consentir à sa propre destruction. Après avoir partagé avec vous ces réflexions et ce voyage sur Oppenheimer et la pulsion de mort, je répondrai aux questions que m'ont adressées celles et ceux qui ont déjà écouté ce podcast disponible sur toutes les plateformes d'écoute.
L'inconscient avec Clotilde Le Guil sur France Inter.
Je suis devenu la mort, le destructeur de monde.
Telle est la phrase revenue en mémoire à Oppenheimer au moment du franchissement décisif que fut la première explosion, celle de l'essai de Trinity à Los Alamos au Nouveau-Mexique.
La possibilité enfin découverte de diviser l'atome au moyen d'un neutron permit la naissance de la bombe atomique. C'est dans les déserts du Nouveau-Mexique qu'eut lieu de nuit la première expérience.
Lacan, de son côté, en est venu en 1960 à définir la science comme ce progrès qui ne veut rien savoir de la pulsion de mort. Les conséquences de cette invention ne sont pas celles qui conduisent Oppenheimer à ce nouveau cogito. Je deviens la mort, le destructeur des mondes. Mais après coup, il a été tourmenté et angoissé par cet acte dont il est à l'origine, celui du largage de la bombe atomique le 6 août 1945 sur Hiroshima.
Scientists, British and American, have made the atomic bomb at last. The first one was dropped on a Japanese city this morning.
Oppenheimer. L'affiche du film de Christopher Nolan, qui nous fait apercevoir le chercheur tournant le dos à ce qu'il laisse derrière lui, une immense explosion de feu qui détruit tout, flamme qui pourrait être celle d'un nouvel enfer, cette affiche est déjà une interprétation. Lorsqu'il a dit oui au largage de la bombe qu'il avait inventée, Oppenheimer n'a-t-il pas un temps tourner le dos aux conséquences tragiques de son savoir, aux effets de son invention, aux désastres qui marqueraient à jamais les populations japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki. N'a-t-il pas choisi de ne rien vouloir savoir de cela pour continuer et aller jusqu'au bout? N'a-t-il pas été entraîné par une force obscure, une pulsion de savoir ce que ça ferait? Cette explosion. Je vais donc vous parler d'Oppenheimer, non pas seulement depuis le regard du réalisateur britannico-américain, fasciné lui-même par la physique quantique et les distorsions de l'espace-temps, mais je vais vous parler d'Oppenheimer aussi depuis la psychanalyse, c'est-à-dire depuis cette notion freudienne qu'est la pulsion de mort. Comment est-il possible de consentir au pire, de vouloir même la destruction au nom du bien, au nom de la nécessité, au nom d'un « il faut » inarrêtable. Au-delà des arguments conscients et rationnels pesant le pour et le contre au sujet du largage de la bombe, au-delà de l'évaluation des nombres de morts que pourrait encore produire la poursuite de la Seconde Guerre mondiale au Japon, alors qu'Hitler avait déjà été vaincu, au-delà des tergiversations qui ont été celles d'Oppenheimer, il y a autre chose. Il y a une pulsion qui veut la destruction. C'est ce qui s'aperçoit dans le traitement que Christopher Nolan fait de la trajectoire subjective de Robert Oppenheimer. Il y a une pulsion qui veut voir cette bombe exploser. Il y a une pulsion qui veut que le retour au néant soit possible. Il y a une pulsion qui vient d'un être en vie et qui est pourtant pulsion d'anéantissement du monde lui-même. Je vous propose alors de nous poser ensemble une question profonde qui nous concerne chacun à notre échelle, qui est celle de ne pas pouvoir s'arrêter une fois qu'on s'est lancé dans une entreprise de destruction. Comment s'arrêter lorsqu'on est pris par une course folle sans pourtant savoir où l'on va? Comment s'arrêter lorsqu'on est sur le point de faire sortir hors de nous-mêmes cette pulsion pour la faire éclater au dehors? Freud a inventé un concept, celui de pulsion de mort, pour parler de cette pente à la destruction en chacun, et même dans la civilisation. Et il s'est demandé comment la psychanalyse pouvait faire avec cette pulsion de mort en chacun de nous. Comment la parole, comment les mots pouvaient faire reculer les exigences de la pulsion de mort. Freud s'est posé cette question en 1920, au sortir de la Première Guerre mondiale. Et cette question a changé aussi la pratique de la psychanalyse. Car il ne s'agissait plus seulement dans la cure analytique de lever le refoulement afin de faire disparaître les symptômes, mais il était question de savoir comment mettre un point d'arrêt à la répétition pulsionnelle mortifère. Ce qui est arrivé à Oppenheimer peut donc aussi être éclairé par cette invention de Freud, la pulsion de mort, Todestrieb en allemand. C'est de cette façon que Freud nomme ce qui, en nous-mêmes, met en péril l'éros, l'amour, la vie, la possibilité de perdurer encore. Todestrieb. Alors, oui, depuis la pulsion de mort, il est nécessaire de rebattre les cartes de l'analyse et aussi de la conception de l'être humain. Essayons ensemble de revenir à la façon dont on peut découvrir en soi-même cette pulsion étrange que Freud a nommée la pulsion de mort. Figurez-vous que Lacan considère que c'est précisément au moment où on découvre cette pulsion en soi-même que l'on se met à avoir peur. Non pas avoir peur des autres, du monde, mais de soi-même. C'est lorsque je fais l'expérience de ma pente à me détruire moi-même, à travers les choix inconscients que je fais peur, très peur. Je me fais tellement peur que je me demande où je vais et pourquoi, sachant que la destination que je choisis est la pire, j'y vais quand même, comme poussé par une force qui me dépasse, comme si en moi s'exerçait une force qui me happait et me conduisait à me faire du mal. L'apôtre saint Paul, dans son épître aux Romains, disait ainsi « Je vois le meilleur, je le connais, mais je suis le pire. Voir le meilleur et suivre le pire. Paradoxe éthique. Oui, je peux connaître ce qui serait bien, le connaître et le savoir clairement, mais pourtant, suivre le pire pour moi, le pire pour les autres, le pire pour l'existence. Aïe, comment alors sortir de cet enfer ? C'est souvent lorsqu'on en est arrivé à ce constat que l'on commence une analyse. Commencer une analyse, c'est éprouver cette peur, c'est se faire peur à soi-même tant on s'égare dans ses choix. En 1974, le journaliste italien Emilio Granzotto, dans un entretien pour le magazine Panorama, pose cette question à Lacan. Mais qu'est-ce qui pousse les gens à se faire analyser ? La peur, répond Lacan. Quand il lui arrive des choses, même voulues par lui, des choses qu'il ne comprend pas, l'homme a peur. Il souffre de ne pas comprendre et petit à petit, il tombe dans un état de panique. C'est la névrose, dit Lacan. Dans la névrose hystérique, le corps devient malade de la peur d'être malade et sans l'être en réalité. Dans la névrose obsessionnelle, la peur met dans la tête des choses bizarres, des pensées qu'on ne peut contrôler, des phobies dans lesquelles les formes et les objets acquièrent des significations diverses et qui font peur. Voilà comment Lacan répond à cette question en 1974. Le sujet à qui il arrive des choses qui le font souffrir, qu'il ne comprend pas et auxquelles il ne sait pas répondre, finit par se faire peur à lui-même. Se faire peur avec ses répétitions, se faire peur avec ses symptômes, se faire peur avec ses idées. Il finit par se sentir asphyxié par ses propres peurs. Il finit par trouver que la vie, sa vie, devient irrespirable. Et il pressent qu'il y est peut-être pour quelque chose. Eh bien, ce qui nous fait le plus peur en nous-mêmes, c'est précisément ce que Freud a nommé la pulsion de mort. C'est-à-dire cette étrange contradiction propre à l'être humain qui consiste à ne pas savoir où trouver ce qui sera bon pour lui, mais à éprouver même une forme de plaisir à détruire et à se détruire. quelque chose en vient à se répéter inexorablement et à ramener sans cesse le sujet du côté du pire, du côté de ce qui anéantit la vie en lui. Pulsion de mort. Freud oppose en 1920 les pulsions de vie aux pulsions de mort. C'est la découverte du caractère de compulsion de répétition qui a mis Freud sur les traces de la pulsion de mort. Le problème de la pulsion de mort est qu'elle paraît accomplir un travail sans qu'on s'en aperçoive. Silence de la pulsion de mort, qui opère sans se faire entendre, sourdement, sous couvert même du plaisir et du bien. Freud va jusqu'à affirmer « Le principe de plaisir semble être au service des pulsions de mort. » C'est-à-dire que là où c'est le plaisir qui semble être recherché, c'est autre chose qui est rencontrée. Comme si la recherche de plaisir conduisait à une forme d'au-delà de ce principe de plaisir, qui se renversait en principe de forcer le plaisir, jusqu'à se faire du mal pour cela, jusqu'à se détruire, jusqu'à détruire la possibilité même du désir. Pour renommer cette pulsion de mort, qui semble procurer du plaisir mais qui conduit aussi vers la souffrance, Lacan a utilisé ce mot de « jouissance » et a repensé la jouissance aussi comme cette façon de jouir de la mort, d'extraire une forme de satisfaction obscure à se rapprocher d'un état proche de la mort. C'est pourquoi commencer une analyse est un véritable événement dans une existence. Commencer à parler de la façon dont nous nous faisons peur à nous-mêmes, cela, c'est quelque chose. C'est pourquoi, dit Lacan, la psychanalyse, ça fait quelque chose. Il le dit en 1967 à propos du commencement d'une analyse. L'acte de commencer une analyse est en effet un franchissement. C'est ce qu'il affirme dans son séminaire « L'acte analytique ».
France Inter, l'inconscient, cette semaine avec Clotilde Le Guild.
C'est un autre franchissement que je vais explorer maintenant. Le franchissement qui conduit à passer de la possibilité du pire à sa nécessité. S'il est possible de faire exploser la bombe, dorénavant qu'on l'a essayé une fois, n'est-il pas nécessaire d'y recourir véritablement pour mettre un terme à la Seconde Guerre mondiale ?
Ils avaient décidé la guerre totale, la victoire totale. Ils ont eu la défaite totale et la capitulation totale.
Est-ce que Robert Oppenheimer, Oppie, comme le surnommaient ses collaborateurs, s'est fait peur à lui-même? C'est une question que Christopher Nolan pose à travers la plongée qu'il nous propose dans l'intimité même du personnage d'Oppenheimer. C'est une question que j'ai eu envie de me poser en voyant ce film. Qu'est-ce que cela lui a fait d'avoir vu sa maîtresse se suicider, sa femme se laisser déborder par l'alcoolisme, et pourtant, lui, d'être le père de la bombe atomique? Qu'est-ce que cela fait d'avoir quand même réussi ça, cette chose innommable? Car c'est bien le mot qui surgira, vous allez le voir, de la bouche de tous ces physiciens rassemblés à Los Alamos.
Le monde n'oubliera jamais cette date.
On a réussi. Dans le film de Nolan, on voit le jour où Oppenheimer fait la couverture du Times Magazine, qui titre « Père de la bombe atomique ». Figurez-vous que ce film résonne de façon saisissante avec l'interprétation proposée par Lacan des effets du progrès des sciences sur la civilisation. Les dernières pages du séminaire de l'éthique de la psychanalyse. Pages datant de 1960 sont en effet d'une actualité troublante et le film de Christopher Nolan ne fait que le confirmer. Ces pages se font l'écho du procès confidentiel dont Oppenheimer a fait l'objet en 1954, mis en cause à l'époque du maccartisme pour ses engagements communistes dans sa jeunesse et soupçonné alors d'avoir été un espion au service de l'Union soviétique. Alors, quel est l'axe choisi par Christopher Nolan ? Ce n'est pas tout à fait la vie d'Oppenheimer, mais le rapport d'Oppenheimer au savoir. Ce film choral, croisant différentes dimensions temporelles de la vie du savant, prise elle-même dans l'histoire de la fabrication de la bombe, puis dans celle du climat de la guerre froide, Oppenheimer avant, pendant et après la guerre, depuis un double procès après coup, ce film parvient en effet à interroger la passion du savoir d'Oppenheimer en tant qu'elle a débouché sur l'invention de la bombe atomique. Faire le récit de la naissance de sa vocation, c'est en même temps pour Nolan en dévoiler le point d'aboutissement. Qu'est-ce qui peut pousser un chercheur à une telle détermination pour mettre en œuvre tous les moyens possibles pour inventer la bombe qui pourra détruire ce qui fait le support de l'humanité, c'est-à-dire notre planète. Comment Nolan traite-t-il de l'obscure détermination d'Oppenheimer qui le conduira à faire entrer son nom dans l'histoire du côté de la pulsion de mort ? Certes, les nazis ne leur laissaient pas d'autre choix à tous, à ces physiciens, que d'entrer dans la course à l'invention de la bombe nucléaire pour être les premiers. Mais il a fallu aussi cette détermination qui plonge ses racines dans l'histoire trouble d'un Oppenheimer, toujours déjà happé par la possibilité d'un autre monde que celui-ci. Dans l'histoire trouble d'un Oppenheimer sombre et quelquefois même mystique, d'un Oppenheimer ayant du mal à trouver sa place dans le monde. Le mysticisme de sa jeunesse, sa passion des trous noirs, sa fascination pour l'infiniment petit et l'infiniment grand, ne préfigure-t-il pas un autre mysticisme, le mysticisme de la mort ? En nous faisant suivre le parcours du jeune Oppenheimer, avant la guerre, voyageant en Europe de laboratoire de recherche en laboratoire de recherche, de Göttingen à Copenhague, à l'affût des leçons des grands physiciens de la physique quantique comme Werner Heisenberg et Niels Bohr, Christopher Nolan nous montre d'abord la passion du savoir qui habite Oppy. Mais il nous montre aussi déjà son angoisse et son choix de ne rien vouloir savoir de la pulsion de mort. Nolan nous fait voir un Oppenheimer d'emblée fasciné dans sa jeunesse par l'idée d'un monde parallèle, ne trouvant pas le sommeil, travaillé par des visions agitant ses nuits, sombre, dépressif même, ne trouvant pas sa place dans ce monde-ci, et même tenté d'empoisonner son chef de laboratoire. Ne laisse-t-il pas un jour sur la paillasse une pomme injectée de cyanure suite à une humiliation en espérant se venger ? Et cette pomme empoisonnée que le jeune Oppenheimer a failli faire croquer à son maître, n'est-ce pas celle qu'il a fini par faire croquer à l'humanité entière ? Nolan nous montre alors l'énergie qu'il a fallu déployer au sein du projet Manhattan, dont Oppenheimer prend la direction, suite à sa nomination par le général Groves, l'énergie pour rassembler les chercheurs les plus pointus en physique quantique, pour construire une ville dédiée à l'invention de la bombe, Los Alamos, ville au Nouveau-Mexique, sur 4500 hectares de terrain, à l'écart de la rumeur du monde, protégée de toute incursion extérieure. Alors que le projet de fabrication de la bombe atomique se met en place et que Oppenheimer rassemble autour de lui une équipe de choc, l'un des physiciens, Isidore Isaac Rabi, dit Easy dans le film, hésite à s'engager dans ce projet. Je ne veux pas que 3 siècles de physique aboutissent à créer une arme de destruction massive. Easy est celui qui voit la logique de la pulsion de mort à l'œuvre, au sein même de cette passion du savoir. Que 3 siècles de physique trouvent à aboutir à cela, comme si l'explosion de la bombe pouvait devenir la vérité de tout cet effort, de tout ce progrès, de toute cette détermination. Voilà une phrase clé du film. Mais pour Hopi, il n'y a pas d'autre choix. Les nazis ne leur laissent pas d'autre choix et ont même pris de l'avance sur eux.
2 minutes avant mi-feu.
Tout le monde à plat ventre ? Ne vous retournez pas avant de voir la lumière se refléter sur les collines. Ensuite, ne regardez l'explosion qu'à travers votre carreau de verre fumé.
90 secondes avant mise à feu.
Ça a bien pénétré ?
Ouais.
Plongeons-nous ensemble dans une scène époustouflante du film de Christopher Nolan.
60 secondes avant mise à feu.
6 mai 1945. Lors du premier essai Trinity à Los Alamos. La bombe, telle une chose noire, contenue dans un caisson. Chose mystérieuse, nouvelle stèle, rendant hommage, non pas à l'être, mais à la destruction. La bombe est hissée en haut d'une tour. Cette nuit-là, un orage se déclenche. Comme si les dieux refusaient de laisser les hommes franchir ce point de non-retour. Et pourtant, ils ne reculeront pas. Voir l'arme de destruction massive exploser dans la nuit, voir la chose sortir d'elle-même, sortir d'eux-mêmes du laboratoire, c'est bien ce qu'ils désirent maintenant. Cette nuit-là, tous les physiciens seront présents, yeux grands ouverts, pour voir l'explosion qui peut-être réussira. Une lumière de feu a déchiré l'obscurité de la nuit et s'est propagée comme une force que rien ne peut arrêter. Réaction en chaîne qui ne cesse pas et qui les laisse tous médusés. Oui, 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 mais oui, ça a marché. En effet, cela a marché parce que la pulsion de mort, cela marche toujours, cela réussit même très bien. La science ne veut rien savoir de la pulsion de mort, de cette pulsion qui est peut-être à l'origine de l'accélération de ses découvertes, de son enthousiasme, de sa frénésie d'inventions nouvelles. Elle ne veut rien savoir de ce que Lacan nommait « das Ding », la chose en allemand. Et c'est bien cela qui revient alors dans le réel. L'explosion de la bombe atomique comme retour dans le réel de cette pulsion de mort silencieuse. Rien ne pourra détourner Oppenheimer de cette pulsion en lui, de cette insondable décision de l'être, de cette folie. Une fois la bombe testée dans le désert de Los Alamos, il faudra l'utiliser, même si la guerre est presque finie, même si le Troisième Reich a capitulé le 8 mai 1945. Et que ça saute, 6 août 1945, le bombardier Enola Gay largue la première bombe atomique sur Hiroshima. Plus de retour en arrière possible. Franchissement, irréversibilité de l'acte.
Professeur Oppenheimer, je suis très honoré.
Monsieur le Président.
Je vous en prie.
Merci.
Monsieur Burns me dit que vous craignez qu'il y ait une course aux armements avec les Soviétiques.
Oui, c'est juste. Monsieur le Président, j'ai l'impression que j'ai les mains couvertes de sang.
Voilà exactement ce qui a fait dire à Lacan en 1960 que quelque chose comme le déchaînement de la pulsion de mort se profile à l'origine. Le discours de la science, dit-il alors, se trouve débouché sur une perspective où c'est bien quelque chose d'aussi énigmatique que la chose qui se profile à l'horizon de la physique. Et c'est bien ce qu'on voit dans le film de Christopher Nolan, le point d'arrivée de 300 ans de physique. La bombe atomique ne dévoile-t-elle pas la vérité de la physique ? Les savants sont quelquefois saisis d'angoisse, mais la passion du savoir est plus forte, et par cet acte prométhéen, ils en sont venus à toucher au cœur de la matière, au point zéro de l'univers, comme en un Big Bang à l'envers. C'est bien le Big Bang final à l'envers, le retour au néant qui se profile là comme impossible à portée de main. C'est ce Big Bang à l'envers que nous fait voir Christopher Nolan à la fin du film. La puissance de déflagration de la bombe qui se répand à la planète en son entier, l'entourant de ses flammes, de son feu infernal, de ses réactions en chaîne à l'infini. Étrange jouissance de l'homme à contempler son propre pouvoir de détruire ce qui est pourtant la condition de son existence. Lacan considère dans cette ultime leçon de son séminaire sur l'éthique de la psychanalyse que nous vivons un moment d'effondrement de la sagesse. La passion du savoir s'est réfugiée dans la science comme si l'être humain ne voulait plus rien savoir d'autre. Si ça va marcher ou pas. Comme si la science, la mise en équation du monde, en algorithme dirait-on aujourd'hui, cette science qui prend son élan de l'affirmation de Galilée, selon laquelle la nature est un grand livre écrit en langage mathématique, cette science qui a enfin rendu possible la destruction de l'humanité elle-même, cette science donc tenait lieu de seule morale. L'effondrement de la sagesse se situe en ce point où le politique s'est laissé faire par le discours de la science. Certains savants, comme Oppenheimer, ont des remords et se demandent à quoi leurs inventions ont servi. Finalement, ce film de Christopher Nolan sur le père de la bombe atomique nous invite à ouvrir les yeux sur le mystérieux désir qui anime la science lorsqu'elle débouche sur une telle invention. Le film de Nolan nous invite peut-être à chercher comment formuler une nouvelle éthique pour la science depuis le rapport au vivant et à ne pas fermer les yeux sur la pulsion de mort. Comment penser la science sans oublier que la pulsion de mort est là toujours et que seul le désir d'en savoir quelque chose, comme Izzy l'a manifesté, permet de la faire reculer. Car que peut être l'éthique, sinon une responsabilité de chacun par rapport à sa propre pulsion de mort ? Ici s'achève ce 8e épisode sur le consentement à la destruction et la nécessité d'ouvrir les yeux sur la pulsion de mort en chacun pour pouvoir choisir la vie. Restez à l'écoute, dans un instant je répondrai à toutes vos questions. Mais tout de suite, voici Arlo Parks et Loose and the Yakuza, I'm Sorry, sur France Inter.
Trust. Je préférais oublier mon passé, me noyer dans l'océan de mes pensées. Parlons-nous la même langue, tout ça prend.
Sur France Inter dans l'inconscient, c'est à vous maintenant, je vous écoute.
Bonjour, je m'appelle Emmanuel, j'aimerais poser une question à Clotilde Le Guil. Alors lors de votre dernière émission, vous nous aviez rappelé que le savoir peut se faire le complice de la pulsion de mort, et qu'il faut s'en méfier. Il faut s'en méfier, et puis en même temps, je vois pas très bien comment on pourrait s'en passer. La psychanalyse opère par la parole, elle opère aussi par la raison. Alors comment faire pour essayer de mettre un terme à l'abjecte et aveugle répétition pulsionnelle? Comment faire pour mettre le savoir à sa juste place? Je vous remercie.
Bonjour Emmanuel et merci pour votre question et pour votre remarque. Oui, dans cette réflexion que j'ai proposée à partir du film Oppenheimer, je m'interroge avant tout sur ce que Lacan a appelé le discours de la science et sur les effets produits par un type de savoir qui est le savoir de la science en tant qu'il conduit à un certain rapport au monde, induisant aussi une certaine croyance dans la possibilité d'un progrès illimité. Vous, votre question, elle me conduit à vous répondre en distinguant deux types de savoir. Le savoir, en effet, que l'on peut acquérir grâce à l'expérience d'une analyse serait d'un autre ordre, au fond. Pourquoi ? Parce que dans une analyse, il est question de s'interroger sur la pulsion de mort en soi-même, en tant qu'on ne la voit jamais venir, en tant qu'on se sent toujours enchaîné à une forme de répétition qui en même temps nous échappe et peut-être nous procure aussi en certains endroits une jouissance. Et donc le savoir qu'on extrait d'une analyse, c'est pas n'importe quel savoir, c'est un savoir sur le jeu, c'est un savoir qui engage le sujet et c'est un savoir qui engage le corps. Donc finalement, il s'agit d'un savoir qui procure une forme de joie, je dirais un gai savoir, justement au sens où il fait reculer ce qu'il y a de plus opaque en nous et qui est finalement la pulsion de mort.
Bonjour, je m'appelle Emmanuel, j'aimerais faire un commentaire et poser une question à Clotilde Le Guil. La science opère et avance avec un franchissement des savoirs établis. Elle trouve aussi un terrain propice dans une société capitaliste où chaque jour, de nouveaux objets créés par la science promettent un lendemain meilleur. Ces objets mêlent le plus souvent la pulsion invocante, la voix, et la pulsion scopique, le regard. Il y a un impératif qui nous rend esclaves d'un joui. En réalité, ces objets qui nous promettent un plus de jouir isole l'être parlant. Et dans la science, il y a une contradiction apparente, un paradoxe. D'un côté, la science assène avec certitude une vérité. De l'autre, elle est rejet de toute subjectivité à travers un ne pas vouloir savoir. On a l'image du savant fou, pour reprendre une image cinématographique, le docteur Folamour chez Kubrick. Le savant fou dont la créature s'échappe, comme Frankenstein, et qui traduit ce qu'est l'aveuglement du savant. Cet aveuglement, c'est aussi celui provoqué par la lumière de la bombe atomique, on le voit très bien dans la scène du film dont vous parlez. Quant à la créature de Frankenstein, elle est une figure du double qui donne l'apparence d'un plus de vie, mais qui conduit à la mort. Aujourd'hui, la science franchit un nouveau seuil avec l'intelligence artificielle et on entend finalement assez peu parler d'éthique tant la fascination est grande. La Chine et les États-Unis se livrent une guerre sans merci pour imposer une certaine version ou vision du monde à travers l'intelligence artificielle. Alors, c'est ma question, à quel nouveau maître, à quel nouveau discours allons-nous nous soumettre ? Merci beaucoup.
Bonjour Emmanuel, merci pour votre question qui porte finalement sur l'intelligence artificielle et sur cette révolution à laquelle nous assistons aujourd'hui. Et je m'aperçois que finalement vous faites une analogie entre ce que j'ai pu développer à propos de la découverte de la bombe atomique et de l'effet de franchissement que cela a produit par rapport à l'histoire de l'humanité, à la possibilité de la destruction, et cette nouvelle révolution qui est celle de l'intelligence artificielle. Oui, moi aussi, comme vous, je m'interroge sur les conséquences psychiques à venir de l'intelligence artificielle, sur les conséquences éthiques aussi. Effectivement, nous sommes à un moment où on a le sentiment que, de toute façon, c'est déjà trop tard pour arrêter quoi que ce soit. De toute façon, tout est déjà parti. Et donc, mieux vaut en faire un bon usage, c'est ce qu'on entend. Mieux vaut maîtriser cette révolution. D'un côté, on voit qu'on a affaire à des injonctions contradictoires, puisque on est en train de s'interroger sur les effets fait des écrans sur les enfants, et d'un autre côté on va introduire l'intelligence artificielle à l'école. Donc effectivement on est pris en étau là par une nouvelle révolution qui nous conduit aussi à un nouveau statut de la technique, parce que l'intelligence artificielle c'est pas seulement un outil, ce n'est pas seulement une machine, je dirais que c'est même pas seulement un objet technologique, c'est presque une nouvelle forme d'autre, de partenaire qui peut nous répondre, qui peut nous parler, qui peut certes nous obéir, mais il y a une forme d'inquiétude, c'est-à-dire qu'on se demande aussi si, bien que l'intelligence artificielle obéisse à un programme et ne pense pas par elle-même, on se demande aussi si on ne va pas nous demander à un moment d'obéir à l'intelligence artificielle. Donc je partage votre interrogation. Et je me demande si finalement l'engouement qu'il peut y avoir aussi autour de l'intelligence artificielle ne révèle pas aussi quelque chose d'une angoisse qu'il y a aujourd'hui par rapport à tout ce qui est de l'ordre de la décision, de l'engagement, de l'acte, hein, comme si finalement on préférait que ce soit des algorithmes qui décident à notre place, qui gouvernent à notre place, et d'une certaine façon qui prennent des décisions. Et on sait que en psychanalyse, la dimension de l'acte, de la décision, elle engage toujours le sujet et donc elle comporte toujours un risque. Et je me demande finalement si on ne cherche pas à répondre par l'intelligence artificielle à cette angoisse que comporte fondamentalement la dimension de l'acte.
Bonjour, je m'appelle Alexandre. D'abord, je vous remercie pour cette émission une nouvelle fois passionnante, qui met en exergue de manière tout à fait sensible, je trouve, une question qui est au cœur de la recherche scientifique, celle de ce qui pousse le chercheur à vouloir finalement opérer comme il le fait sur le réel. Mais c'est aussi, à mon avis, celle d'où nous conduit tout cela. Et ce, alors que la science a permis aussi à l'humanité des conquêtes prodigieuses dont nous jouissons tous. Et il me semble que c'est un problème un peu plus actuel si on considère, par exemple, les avancées de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Il ne s'agit pas là de la fabrication d'une arme, quoique, puisque, évidemment, une des applications de ces technologies, et qui a déjà lieu d'ailleurs, c'est d'armer les systèmes militaires. Et on ne sait pas très bien où est-ce que tout ça va nous mener, quand même. D'ailleurs, aujourd'hui, les chercheurs eux-mêmes qui ont contribué à la création de ces technologies, pour un certain nombre en tout cas, s'alarment du danger de cette situation. L'exemple le plus récent en la matière, c'est celui de Geoffrey Hinton, un des pionniers de l'intelligence artificielle, qui a annoncé son départ de Google récemment, alertant sur le danger pour l'humanité de ce qu'il a contribué à créer. Si on l'écoute et si on le lit, il craint manifestement, lui aussi, d'avoir au bout du compte du sang sur les mains. Et c'est là encore dans une logique d'après-coup, puisqu'il donne à voir comment lui-même, confronté à l'aperçu de l'horizon de sa découverte, l'a dénié pendant tout un temps, finalement. Et donc, il fait partie des chercheurs qui aujourd'hui demandent après-coup un moratoire sur le développement des intelligences artificielles, moratoire qui apparaît un peu comme un vœu pieux quand même, parce qu'on ne voit pas trop bien comment arrêter la marche du monde, la marche de la créature une fois sortie du laboratoire. Alors, ma question c'est, qu'est-ce que finalement la psychanalyse peut apporter à l'échelle de la civilisation dans la confrontation à ce malaise ? S'agit-il par exemple pour les psychanalystes d'interpréter à partir de ce qui se joue après coup pour le chercheur, pour quelqu'un comme ça qui vient témoigner après coup de ce qui le divise par rapport à une jouissance de la découverte dans laquelle il a été embarqué ? Je vous remercie par avance pour votre réponse.
Bonjour Alexandre, merci pour votre question qui comprend finalement déjà une première réponse et que je trouve très intéressante. D'abord, en effet, on ne peut pas avoir une position contre les conquêtes de la science. Vous avez tout à fait raison de le rappeler. Et je pense à ce que disait déjà Descartes qui s'enthousiasmait du fait que le progrès scientifique et technique allait nous permettre de nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature et qui citait en particulier la médecine. Effectivement, on ne peut que se réjouir des progrès de la médecine depuis le temps de Descartes, et il n'est pas du tout question de critiquer cette science-là, mais en effet, il est question d'un autre côté de ne pas fermer les yeux sur les effets dans le réel de certaines conquêtes finalement technologiques avant tout. Et l'exemple que vous donnez, je trouve très intéressant, l'exemple de ce savant Geoffrey Hinton qui a osé manifester une angoisse par rapport à ce que pourrait produire l'intelligence artificielle. Et c'est peut-être la question aussi aujourd'hui de savoir si on a encore le droit d'être angoissé. Ou est-ce qu'il faut toujours faire comme si on n'était pas angoissé, comme si on y allait avec une main devant les yeux et comme si on continuait à avancer sans rien vouloir savoir de la destination. Je pense que cette question de l'angoisse, elle est tout à fait fondamentale. Et si certains savants éprouvent de l'angoisse, si certains chercheurs éprouvent de l'angoisse par rapport aux conséquences possibles de l'intelligence artificielle, de même que du temps d'Oppenheimer, on a vu que Izzy, dans le film, éprouvait aussi une angoisse par rapport aux conséquences des découvertes qu'ils étaient en train de faire concernant la possibilité de fabriquer la bombe atomique, eh bien, peut-être qu'il faut prendre cette angoisse au sérieux. Et effectivement, ce que peut apporter la psychanalyse, c'est de donner aussi une valeur à l'angoisse, de considérer que l'angoisse est en effet, comme disait Freud, le signal d'un danger. L'angoisse pour Freud, c'est le signal d'un danger dans le corps, mais l'angoisse pour Lacan, c'est aussi le signal d'un danger qui renvoie à un trop, qui renvoie à quelque chose que Lacan appelle le réel. Et donc, je pense qu'il n'est pas mauvais que, en effet, certains savants, certains experts, certains chercheurs osent faire valoir l'angoisse pour tenter peut-être de faire limite ou au moins d'orienter, disons, les usages possibles de l'intelligence artificielle sans que ces outils, cette invention viennent empiéter sur ce qu'est la subjectivité humaine. Et nous poursuivons nos échanges à l'écoute de vos questions.
Bonjour, je m'appelle Eloïna. Merci, Clotilde Le Guil, pour ces réflexions si importantes, surtout dans ces moments de conflit et qui concernent chacun de nous à son échelle. Dans un côté, il y a la science avec sa croyance dans le savoir absolu, ne voulant rien savoir de sa pulsion destructive. De l'autre côté, il y a la psychanalyse, qui propose un autre type d'expérience qui va au-delà de celle du laboratoire, se retirant de ces lieux de savoir pour écouter le désir, à quoi le sujet veut consentir. Pour qu'il puisse se poser cette question dans le présent, à quoi je veux consentir, avant que le réel irréversible soit au présent. Cela implique à faire le deuil du savoir absolu sur le réel et faire l'expérience de l'angoisse, non? Entre « on a réussi » et tout après, qu'est-ce que je fais? Que propose-t-il l'expérience de la psychanalyse, Clotilde? À quoi nous invite la psychanalyse? Merci.
Merci Eloïna. Je repense en vous écoutant, en écoutant vos réflexions sur un certain point d'aveuglement dans une adhésion totale à ce qui est presque une idéologie, l'idéologie du progrès. Je repense à cette scène que je n'avais pas pu évoquer, mais qui est vraiment très importante dans le film Oppenheimer. Cette scène où, après le largage de la bombe atomique sur Hiroshima, Oppenheimer se retrouve dans l'amphithéâtre à Los Alamos avec tous ses collaborateurs, qu'il est applaudi, acclamé comme vraiment un héros, comme un nouveau dieu qui a en effet pu accomplir un exploit. Et là, Christopher Nolan filme une sorte de moment de dépersonnalisation où soudain, Oppenheimer n'entend plus les applaudissements et tout d'un coup voit devant lui les visages de chacun de ses collaborateurs atteints par les effets de la bombe atomique et il voit ses visages devenir de plus en plus pâles, puis la peau se détacher et partir en lambeaux. Il est confronté comme à une espèce de vision cauchemardesque qui est véritablement un retour dans le réel de ce qui a été dénié, au fond, de la vérité de son acte. Et donc, je trouve que cette scène est vraiment exemplaire. Et bien que Christopher Nolan ne se réfère pas du tout à la psychanalyse dans son film, moi, ça m'a vraiment évoqué ce que Lacan pouvait dire de la science qui forclos, c'est l'expression de Lacan, qui forclos, c'est-à-dire qui rejette la pulsion de mort, qui n'en veut rien savoir, et finalement, cette pulsion de mort, elle fait retour dans le réel. Donc, effectivement, ben, on peut dire que, en tout cas, la psychanalyse nous invite à non pas nous méfier du désir, non pas nous méfier de l'autre, mais nous méfier de ce qui est de l'ordre de la pulsion que justement on ne voit pas. La pulsion qui peut être aussi à l'origine d'un désir de savoir, hein, mais qui finalement donne une destination quelquefois tragique, hein, à ce savoir, ce qui fait parler d'effondrement de la sagesse. C'est Lacan qui parle d'effondrement de la sagesse, considérant qu'au fond, lorsque tout le désir de savoir s'est réfugié dans la science et dans le fait de vouloir se rendre justement comme maître et possesseur de la nature, eh bien, il y a quelque chose de la sagesse humaine qui est perdue, quelque chose de cette sagesse aussi antique qui permettait de vivre et de savoir comment vivre, comment faire avec les plaisirs, avec le désir, qui se voit perdu. Et donc, peut-être qu'on peut souhaiter que la psychanalyse, mais d'autres disciplines aussi sans doute, et d'autres formations de l'esprit, on peut souhaiter que la psychanalyse puisse tout de même conduire à une forme de restauration de la sagesse. Merci pour vos questions et merci à Antoine Espel à la technique, à Juliette L'Orphelin pour le choix de la musique, à Franck Olivard qui récolte vos questions et à Jérôme Boulet à la réalisation. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec David Gourion. D'ici là, vous pouvez d'ores et déjà écouter son podcast dans l'application Radio France, sur toutes les plateformes ou sur notre page internet L'Inconscient sur franceinter.fr et lui laisser des messages par note vocale ou sur notre répondeur au 01 56 40 64 04. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le dimanche 12 mai pour parler du consentement, du silence et des tristes tigres.